Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 18h.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+, ou sur le site, peut-être, si nous écoutez de loin, campuslille.com. Et dans quelques instants, comme par magie, se lancera le Twitch de l'émission pour avoir un complément vidéo des personnes autour de la table. Ici, aujourd'hui, le Twitch, c'est Another-du-bas. Podcast. Aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a même François, je suis accompagné de Rénal.
Bonsoir à tous.
Et de Virginie.
Bonsoir.
Nous avons deux invités aujourd'hui avec nous. Simon, bienvenue.
Bonsoir.
Et Alex.
Bonsoir.
Alors Simon, tu es coordinateur, c'est ça, de, alors on va tout de suite expliquer, de l'ARCI HDF.
Tout à fait, c'est l'Association Régionale des Cinémas Itinérants des Hauts-de-France.
Et à Alex, tu es médiateur.
Oui, médiateur au cinéma, médiateur culturel.
Très bien. Alors, on vous accueille, puisque forcément, dans l'émission, il y a plusieurs sujets qui nous passionnent. Il y a le jeu de société, il y a le film, hein, et il y a également l'intelligence artificielle. Et comme par magie, vous arrivez à réunir les trois. On va en parler tout à l'heure avec un peu plus de détails. On va parler forcément de l'ARCI. On va parler d'un jeu de société, puisque vous avez créé votre propre jeu de société en collaboration avec la DRAC, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Et on va parler aussi, bah, forcément, de cinéma itinérant tout au long de cette émission. Mais avant de commencer, il y a cette question qui nous amène à parler un peu de votre parcours, essayer de voir un peu d'où vous êtes venue cette passion. Alors, est-ce qu'on peut parler ici d'une passion de cinéma? Est-ce que pour être dans l'association, il faut être un peu passionné de cinéma, dans le fond?
Oui, je pense qu'il faut l'être quand même un petit peu. On participe au comité de programmation des cinémas itinérants. On voit énormément de films. On essaie de voir un maximum d'avant-premières aussi pour être force de proposition auprès des cinémas itinérants, pour avoir une programmation adaptée aux milieux ruraux pour lesquels nous travaillons.
Alors, comment dans votre parcours vous en êtes venu à faire partie de cette association? Chacun va y passer, donc il faut en choisir un pour commencer.
Bah, je peux commencer. Moi, j'ai fait des études dans le cinéma. J'ai fait dans des collectifs des projections aussi. Et quand il y a un poste de médiateur qui s'est ouvert à l'ARCI, du coup, j'ai postulé pour faire ce travail-là de manière professionnelle. Mais j'ai toujours été passionné de cinéma, aussi de jeux de société, mais c'est un autre sujet. Mais
alors, ouais, attaquons le sujet tout de suite. Si je te dis tes premières passions de jeux de société, ça remonte à quand et avec quel jeu?
Je pense que dès l'enfance, j'ai toujours bien aimé jouer aux jeux de société. Je me souviens un peu de longues parties de Risk avec mon petit frère.
C'est toujours long, une partie de Risk.
Ouais.
Quand tu arrives à la finir.
Ouais, c'est
si,
ça.
Il n'y en a pas un qui soulève le plateau pour que tous les chutons tombent par terre en disant « Oh, c'est zut !» Partie finie.
Et puis depuis, j'ai joué à plein de jeux de société. J'aime bien les jeux de stratégie, j'aime bien les jeux vidéo aussi. Et c'est l'avantage aussi de l'ARCI, c'est qu'on fait du cinéma, on est dans le cinéma, mais on fait aussi beaucoup d'ateliers d'éducation aux images, aux médias, auprès des ados. C'est un public qu'on essaie de toucher un peu autrement que par le cinéma aussi. Et donc c'est sur plein de sujets, dont aussi les jeux vidéo... on parle de doublage de cinéma, on parle de plein de choses dans ces ateliers-là, et aussi d'intelligence artificielle du coup.
Et c'est vrai, et on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais souvent le jeu vidéo ou le jeu de société sont des bons moyens pour aborder d'autres sujets et d'attirer l'attention et peut-être d'expliquer d'une autre façon que d'asseoir les gens devant un speaker qui va parler pendant 20 minutes et des fois bon ça n'aura pas la même réaction, surtout pour les plus petits généralement.
Ouais.
Et,
les accès, oui.
Et toi, est-ce que tu veux parler de ton expérience un peu cinéma ou...
Oui, possible. Ben, moi, j'ai un master en production artistique. J'avais travaillé pour un festival de musique classique, j'avais travaillé pour une école de danse, et mon stage de master 2, je l'ai fait dans le cinéma itinérant Cinélic, justement. C'était en 2018, en pleine création de l'association régionale des cinémas itinérants par le circuit cinéma itinérant Cinélic du Nord-Pas-de-Calais et Cinéral 60 dans l'Oise, qui était en train de fonder l'association régionale, et donc qui cherchait un coordinateur, et j'ai la chance d'être dans cette association depuis la création, depuis 2018, du coup.
D'accord. On va passer en détail un peu tous les différentes actions de l'association, et on verra par la suite que vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes bien entouré pour le coup. Mais juste avant ça, il y a le petit point événement passé, puisque notre équipe, alors on a un intervenant là qui est parti, Dominique, est en aventure et il nous racontera ça sûrement la semaine prochaine. Mais il y a quand même un gros festival qu'on a fait il y a 2 semaines, et comme Virginie a été...
Qu'une semaine, ça passe vite, je sais bien, mais ça date du week-end.
Une semaine, et comme toi, tu as un peu fait les backstage de l'événement, tu pourras nous en parler plus en détail. Mais je tiens à refaire une petite précision, quitte à corriger ce que j'ai dit la semaine dernière. Je me suis fait taper sur les doigts, donc voilà, je vais rectifier à l'antenne. J'ai dit oui, il y a certains stands où on peut retrouver des objets tels que Temu, etc., à des prix exorbitants. Oui, ça peut arriver, mais il faut quand même souligner qu'à Trolls et Légendes, 90% voire plus des stands, c'est de l'artisanat, et donc des personnes qui ont fait leurs objets eux-mêmes. Donc voilà, c'était pas pour dénigrer l'événement, c'était pour pointer quelque chose qu'on peut plus voir dans d'autres festivals, mais c'est vrai que c'était un peu injuste d'en parler pour Trolls et Légendes, alors que eux font l'effort de faire venir des artisans pour le coup.
C'est ça, Troll, ça fait quand même pas mal d'années, ça fait plus de 20 ans je crois que ça existe. C'est quand même un événement qui a accueilli cette année 20 000 personnes sur un week-end de Pâques, avec un contexte géopolitique un petit peu compliqué. Et donc je pense que c'est quand même une grosse force de frappe, en tout cas ici dans les Hauts-de-France. Et j'avoue que ça m'a fait du bien de revenir en tant que bénévole de l'autre côté de la barrière. D'habitude, je suis en visiteur. J'ai fait déjà partie d'une grosse équipe organisatrice sur Arras, dont j'étais déjà venue parler il y a quelques temps, à Trébassia. Et là, j'ai un peu retrouvé ce goût-là avec l'équipe de la librairie Les Quatre Chemins, en l'occurrence, que je salue.
Alors, ça doit être du boulot, mais est-ce qu'on n'est pas récompensé lorsqu'on va écouter un peu de musique ?
Ah bah si, évidemment. Alors, les vendredis et samedis, on est quand même vachement fatigué par les installations, par le fait d'être debout toute la journée. Là, moi, sur le pôle librairie, j'avais 5-6 auteurs à ma charge. Mais par contre, oui, j'avoue que le dimanche, de pouvoir savourer ma Goyon, Faune, d'avoir entendu quelques copains aussi sur la scène découverte, les Level Encre qu'on a déjà passé à l'antenne, et ça fait du bien, voilà. Et de revoir aussi tous les copains, que ce soit bénévoles, artisans, les animations, c'est toujours un plaisir de les retrouver.
Est-ce que tu as fait de belles rencontres ?
J'ai fait quelques belles rencontres avec l'équipe entre autres de la librairie, que je connaissais très rapidement. J'ai retrouvé certains auteurs sur le pôle où j'étais, comme Stéphane Plateau, qui attire toujours autant les foules. Et puis, j'ai fait la découverte de Tricia Levenseller, et j'ai eu la chance de me voir offrir son livre « La vengeance de la reine pirate », que j'ai hâte d'ouvrir, évidemment.
Moi, j'avais l'impression qu'il y a des marque-pages dedans, mais non, c'est pas...
Des marque-pages, c'est les jolis dessins de Piel, qui est un ami illustrateur belge, et puis le fameux petit badge Benetrol, forcément, qui est ma petite récompense du week-end.
Un autre événement que tu souhaites souligner ?
Oui, ce week-end, j'ai fait le vidéomapping, et je me suis payé le luxe de le faire 2 soirs d'affilée.
Parce que c'était bien ?
Parce que c'était bien, et parce qu'il y avait du monde en fait le vendredi, et donc moi qui voulais filmer ou faire des photos, c'était pas très pratique, et j'étais avec mes parents aussi, donc j'ai préféré retourner seule le lendemain, refaire le tour tranquille, et puis pouvoir faire les vidéos, les photos. J'ai pas fait les lieux où c'était sur réservation, malheureusement, il y en avait 3, c'était un peu l'exception de cette année, et c'était 3 € la réservation, mais ça a été pris d'assaut facile une semaine avant, quoi.
Voilà, un petit coucou à Pierre-Yves et Gino qui nous ont rejoints sur le Twitch. On va parler de l'ARCI. Alors, et avant peut-être de parler de l'association, essayer de comprendre un peu c'est quoi le cinéma itinérant. Alors moi, j'ai toujours cette vision un peu américaine de je vais dans ma voiture, que j'ai jamais vécu en vrai, je l'ai toujours vu dans les films.
Et
ils sont dans
existe.
La voiture à se bécoter avec des pop-corn. Et dehors, il y a un écran géant.
C'est ce qu'on appelle les drive-in.
Voilà.
Drive-in,
ouais. Mais est-ce que c'est pas que ça, le cinéma itinérant.
Non, bien sûr que non. Le principe d'un cinéma itinérant, c'est d'aller au plus près des spectateurs des milieux ruraux, dans les territoires qui sont dépourvus ou très éloignés des salles de cinéma fixes. Et donc, le principe d'un cinéma itinérant, c'est d'aller dans des communes qui sont agréées par le Centre National du Cinéma, parce qu'en France, on a quand même des procédures administratives et une réglementation cinéma assez lourde, ce qui est plutôt bien dans la protection des films d'ailleurs, et donc et de la diffusion. Et donc il y a des salles qui sont agréées par le Centre National du Cinéma pour que nous on puisse venir dans les communes proposer des séances de cinéma avec des films d'actualité tels que les films qui sont en salle en ce moment. Donc on a exactement le même matériel qu'une salle de cinéma fixe mais adapté à l'itinérance avec des projecteurs numériques. On a il y a 12 projectionnistes dans les Hauts-de-France, 12 projecteurs numériques, 12 camions et un nombre incalculable d'écrans, d'enceintes et de tables de mixage pour proposer des séances chaque jour dans 170 communes dans les Hauts-de-France en tout.
Alors, qui vous appelle dans ce cas, c'est la municipalité?
Ça peut être ce qu'on appelle, nous, les partenaires de territoire, peuvent être des municipalités, peuvent être des associations locales, peuvent être des médiathécaires, des établissements scolaires, toute salle qui a envie de proposer, qui a un projet culturel autour du cinéma, en tout cas, à développer avec le cinéma itinérant. Parce que le principe, c'est que le cinéma itinérant n'est pas prestataire pour la commune, mais bien dans le cadre d'un partenariat. C'est-à-dire que chaque projet est différent pour chaque commune, et donc le cinéma itinérant gère des projets bien distincts avec chaque commune. C'est un travail de fourmi, le développement culturel en milieu rural.
Ça ne concerne pas One Shot, c'est pour faire une pérennité, pour que vous reveniez tous les X mois et que ça relance au niveau culturel, au niveau du cinéma, soit dans la paroisse, dans la région.
Tout à fait. En fait, il y a certaines communes qui proposent, dès le début dans le projet, c'est une séance par mois ou quatre par an ou une tous les 15 jours. Ça dépend vraiment du projet culturel de la commune. Est-ce que c'est 20h30? Est-ce que c'est du jeune public? Est-ce que c'est à destination du tout public? Est-ce que c'est avec des publics captifs en centre de loisirs ou club ado pendant les vacances scolaires? Voilà, chaque commune a son projet bien bien défini, et le cinéma itinérant construit le projet en tout cas avec la commune en fonction de ses disponibilités, parce qu'on a de plus en plus de demandes de communes pour intégrer les cinémas itinérants en fonction des départements, et les plannings commencent à être vraiment vraiment blindés.
Donc là tu parlais de salles, ce qui détruit un peu mon mythique ce driving, mais ouais. Si vous deviez donner un pourcentage, combien de diffusions peuvent être faites à l'extérieur par rapport à celles en salle?
En plein air, alors déjà on est dans le nord, donc on en fait quand même beaucoup moins que les cinémas itinérants du sud, mais on propose une centaine de séances en plein air par an, en général entre juin et mi-septembre, mais par contre on parle de 10 000 séances en salle, je crois, à l'année.
Ouais, ça doit être dans ces eaux-là, peut-être même un peu plus. Ouais.
Peut-être un peu plus, ouais. Donc 10 000 séances en salle et une centaine en plein air. Donc vraiment, l'activité des cinémas itinérants est subventionnée par la région et la DRAC, entre autres, et les départements aussi. Les plein airs ne le sont pas. C'est-à-dire que les plein airs, on peut le faire dans n'importe quelle commune, même qui n'est pas agréée par le Centre National du Cinéma, avec des films qui ont plus d'un an. Gratuit à destination des spectateurs.
Ici, on parle que de films où on peut élargir un peu plus loin avec soit de l'animé, soit des concerts où on reste. Moi, ça, c'est mon rêve d'ouvrir un cinéma série où les gens pourraient aller voir leur Netflix au lieu d'aller le voir chez eux, mais au cinéma. Mmh. Mais apparemment, au niveau réglementation, c'est compliqué.
Je confirme.
Mais du coup, voilà, si vous sortez du cadre de film, qu'est-ce que vous pouvez toucher également?
On propose pas mal de... On essaie en tout cas de proposer du court-métrage. On essaie de proposer des programmes de court-métrage, notamment parce qu'il y a des distributeurs qui proposent notamment à destination du très jeune public... principalement des programmes de court-métrage qui sont très très adaptés aux 3-6 ans. Et notre rôle aussi, c'est de pouvoir proposer des petites animations derrière, revenir sur les films, sur les personnages, essayer de développer au maximum leur imaginaire. Et en tout cas, notre démarche principale et nos valeurs sont de favoriser le développement culturel et donc tout en faisant plaisir aussi aux spectateurs. Et donc, on essaie d'avoir une programmation tout autant art et essai que grand public. C'est vraiment notre objectif.
Les trois circuits de cinéma itinérants des Hauts-de-France, ils sont labellisés art et essai. tous les trois.
Alors c'est bien, tu les cites. Vous, vous êtes un peu sur la coordination de trois autres associations également.
Tout à fait.
Alors, est-ce que tu peux les citer pour le coup ?
Alors oui, il y a Ciné Rural 60 qui est dans l'Oise, il y a Cinépop qui s'occupe de l'Aisne et de la Somme, et il y a Ciné League qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est un peu la plus grosse association, mais c'est trois associations qui fonctionnent à l'année et...
Voilà. Et là, c'est beaucoup plus de membres dans ces associations. On parle de combien de personnes environ si on les réunit tous les trois ?
Du coup, ça fait 20. 30. Ils sont 29 même, je dirais. Pour les trois cinémas itinérants, 29 salariés, dont 12 projectionnistes.
Donc c'est eux
et plus nous deux.
Et plus nous deux à la coordination régionale, oui.
Donc c'est vos quatre associations qui vont faire à peu près, vous disiez, plus de 10 000 films par an ?
Non. 10 000 séances. De cinéma en salle et sans en plein air.
Ouais, c'est-à-dire qu'une fois que le matériel est installé, vous pouvez faire plusieurs séances plutôt que de repartir tout de suite.
Oui, en fonction de du coup, toujours dans la réglementation de l'amplitude horaire du projectionniste. On ne peut pas passer trois films dans la même salle la même journée, ou alors ça nécessite de faire venir deux salariés.
D'accord.
Du coup, vous avez un catalogue que vous proposez aux collectivités, aux associations, ou alors c'est co-construit avec eux ?
Un catalogue de films, vous voulez dire ?
Oui, à proposer.
Ouais, chaque mois, du coup, les cinémas itinérants envoient à leurs partenaires de territoire leur programmation. Et ensuite, il y a tout un travail de médiation avec les partenaires de territoire pour dire, le partenaire dire, nous, on aimerait bien passer ça. Et ensuite, en fonction de... Le but, c'est absolument pas de leur imposer les films. Certes, on a une programmation, ils choisissent dedans, ils programment ce qu'ils veulent, entre guillemets. Après, notre rôle de médiation, c'est aussi de dire, connaissant ton public, est-ce que tu penses pas que ce film-là serait plus adapté ? En plus de ça, on propose un accompagnement de séance, il y a un invité, on a fait venir une petite association locale pour accompagner la séance. Donc du coup, est-ce que ce serait pas plus intéressant de passer ça ? Mais la décision finale leur revient toujours.
Donc c'est pas finalement que de la diffusion de cinéma, c'est un événement en tant que tel dans la commune en question, quoi.
Bien sûr, c'est le but. En fait, on se rend compte aussi dans l'activité des cinémas itinérants que l'animation des territoires est absolument essentielle dans des milieux ruraux qui sont dépourvus en grande partie d'actions culturelles. Et c'est parfois, on s'est rendu compte que dans certaines communes, et c'est ça qui est génial, c'est que les publics viennent sans forcément savoir quel est le film. C'est juste parce que c'est le rendez-vous du vendredi soir où on sait qu'il va y avoir toute la commune, en tout cas il va y avoir les habitués et ceux qui ont l'habitude de venir aux séances de cinéma. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le développement culturel, parce que notre rôle, c'est vraiment de créer une dynamique locale, en fait.
Et ça se retrouve aussi dans les chiffres de fréquentation, où quand il y a des fluctuations au niveau national sur des baisses de fréquentation du cinéma, le cinéma itinérant, il est un peu moins touché, parce que les gens viennent pour l'événement plus que pour le film. Et du coup, on n'est pas tout à fait dans la même perspective que...
Exactement.
Que le reste du cinéma fixe, quoi.
Notre moyenne spectateur est bien supérieure à celle des salles fixes.
C'est environ 52 de moyenne de spectateurs ?
Tout à fait.
Je suis calé là-dedans. Et plus de 110 000 spectateurs, rien que pour l'année 2025.
Ouais.
Et presque la même chose pour 2024. Mmh. Donc ouais, on voit que ça motive. Si on souhaite se renseigner et se dire, tiens, moi j'aimerais bien découvrir ces cinémas itinérants, le meilleur moyen, c'est quoi ? D'aller sur le site arcy-hdf.org ?
C'est un bon début.
Ouais. Mais chaque cinéma itinérant a son site internet, du coup, en fonction du département dans lequel il intervient.
Donc imaginons ici, là, nous sommes dans le Nord.
Il faut aller sur le site de cinéligue-hdf.org pour voir toute la programmation à l'année. Ils ont à peu près 70 points de projection, je crois.
Est-ce que vous pouvez citer des villes pas loin du studio, par exemple ? Est-ce que Villeneuve-d'Ascq en fait partie ?
Non, Villeneuve-d'Ascq, il y a le Méliès, déjà. En fait, on essaie d'aller... notre rôle, c'est vraiment d'aller là où il n'y a pas de salle fixe.
D'accord.
Et du coup, vraiment dans des petites communes, des milieux ruraux et périurbains.
Donc, s'il y a un gros cinéma
on n'interviendra
pas le nom,
voilà.
Il y a peu de chance.
Pas besoin de nous.
mais par contre, pas très très loin, il y a la zone PVL Carambeau, l'office de tourisme, je sais qu'ils sont très friands de ce genre de choses. Ils animent beaucoup le territoire. Il y a du son, des spectacles son et lumière, ce genre de choses. Donc, il y a des espaces de plein air qui seraient parfaits pour ça. Mmh. En plus, au pied d'un château, pour ne pas le citer.
N'hésitez pas à nous appeler.
Donc, voilà. Mais oui, plus peut-être au sud de l'agglomération lilloise, hors
On intervient, il y a pas mal de points, enfin de communes qui sont agréées par le Centre National du Cinéma dans le circuit cinélique dans le sud de l'île. J'entends surtout le... Il y a le bassin minier qui est quand même pas très très loin. Et entre les deux, il y a quand même plusieurs communes qui sont agréées. Mais Alex, je sais pas si tu... Il y a Annelin qui est pas très loin.
Ouais.
Et de tête, j'avoue que j'ai pas de tête les 170 communes sur les 5 départements. Mais il y a... Ulu aussi, mais c'est plutôt... Si, Ulu, c'est dans le coin aussi. Entre autres.
Je vais te donner du répit, je vais faire une petite pause musicale si jamais tu veux te rafraîchir la mémoire. Et cette pause musicale, tout au long de cette émission, va faire un fil rouge sur le jeu de société que vous avez créé qui s'appelle...
Artifice.
Voilà, donc on a été dégoté toutes les petites musiques qui s'appelaient Artifice. Uh-huh. Et il n'y en a pas énormément, c'est donc ça va aller très vite. Et par la suite à cette musique, on va parler un peu des ateliers, qui est une grande occupation de votre association et qui nous intéresse tout particulièrement. L'artiste qu'on va écouter s'appelle Son, S-O-H-N, et la chanson s'appelle...
Artifice.
Artifice. S-O-H-N avec Artifice, il est britannique et Artifice, ça vient de son premier album qui s'appelait Tremors et ça date quand même d'il y a 6 ans. Mais bon, ça s'écoute, c'est assez rare comparé aux musiques qu'on peut écouter d'habitude. Et je le vois au nombre de personnes qui restent sur Twitch, on en perd moins que d'habitude quand je passe de la musique. Nous sommes avec Alex et Simon de l'Arcy HDF pour parler des cinémas itinérants ici, mais également de jeux de société et également d'intelligence artificielle. Alors pourquoi intelligence artificielle? Puisque vous animez de nombreux ateliers. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces animations? Est-ce qu'on peut appeler ça des fois des sensibilisations également?
Ouais. Le cinéma itinérant, on touche un public plutôt âgé en général. Et du coup, c'est une de nos missions, c'est d'essayer de toucher les jeunes. Et donc, on a développé un certain nombre, 9 ateliers d'éducation aux images, aux médias et à l'information qui parlent de thèmes hyper variés. Ça va du jeu vidéo aux fake news. On fait aussi des ateliers de programmation de films d'horreur. On fait un atelier sur le doublage, un atelier sur les stéréotypes de genre au cinéma. Enfin, on a essayé vraiment d'avoir un éventail assez large qui parle de plein de sujets différents qui peuvent toucher, intéresser une population plus adolescente. On intervient beaucoup dans les médiathèques, du coup, les médiathèques des communes qui sont déjà partenaires des cinémas itinérants, mais aussi dans les écoles, dans les centres sociaux, beaucoup aussi, enfin, devant un public assez varié. Et un des derniers ateliers qui a été développé par l'association, du coup, c'est sur l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui nous paraissait important d'aborder avec les jeunes. Du coup, tous nos ateliers, ils sont pensés dans l'idée d'éducation populaire, où nous, on arrive avec des faits, des bases, mais le but, c'est de créer de la discussion et aussi de faire quelque chose d'assez ludique, parce qu'en général, on intervient pendant les vacances scolaires, des choses comme ça, donc on veut pas juste faire un truc hyper théorique sur un sujet. On veut essayer d'engager le plus possible les jeunes et qu'ils passent un bon moment aussi. Et du coup, je sais pas si on parle plus de tous les ateliers ou si on parle sur celui sur l'intelligence artificielle.
D'un gros atelier fake news que vous aviez réalisé à de nombreuses reprises. Est-ce que sur ces, vous sentez qu'il y a un plus gros intérêt sur l'intelligence artificielle ou que sur la fake news, ou en tout cas, les gens sont-ils plus alertes? Alors attends, je vais quand même te remettre ton micro.
Ah, pardon. Pour compléter, en fait, on développe aussi des actions en fonction des retours qu'on a des partenaires de territoire. C'est-à-dire qu'on considère aussi, et c'est le cas de toute façon, que les personnes qui connaissent le mieux leur public sont les partenaires directement. Et du coup, on construit aussi nos ateliers en fonction des retours qu'on a de leur part. C'est-à-dire que bah, là, on a identifié, un enseignant ou une enseignante a identifié qu'il y a des besoins de développer une action spécifique sur les fake news. On se dit, bah, comment est-ce que nous, on peut essayer de proposer quelque chose? Ou sur l'intelligence artificielle, ou sur les séries, ou sur les jeux vidéo, parce que l'enseignante nous a dit que les gamins s'endormaient au collège parce qu'ils jouaient toute la nuit et qu'il y avait zéro limite. Comment est-ce qu'on peut les sensibiliser là-dessus? Et comme le disait Alex, vraiment le but, c'est de créer un échange, de créer une discussion et aussi d'essayer de libérer un petit peu la parole sur leurs expériences et qu'ils puissent parler de leurs expériences aussi pour que nous, on puisse entamer des conversations avec eux.
D'accord. Alors, on va peut-être pas parler de fake news vu que là, vous avez peut-être fini toutes les animations à ce sujet, mais peut-être commencer à rentrer dans l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez déjà un avis? Est-ce que vous, quand on vous demande, voilà, on aimerait parler de l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne de votre côté? Est-ce qu'il y a un apprentissage à faire? Est-ce que vous avez déjà peut-être vous proposé ce sujet parce que vous l'aviez potassé de votre côté?
Eh ben, je pense que je parle pour moi, mais c'est quand même un sujet qui m'intéresse, même si de mon côté, j'utilise pas, j'ai pas l'impression d'utiliser beaucoup l'intelligence artificielle. C'est plutôt quelque chose, pas que je me méfie, mais en tout cas dont j'avais envie d'apprendre sur le sujet pour mieux le comprendre. Et du coup, ça commence souvent comme ça, nos ateliers, c'est des sujets qui nous intéressent, sur lesquels on se renseigne, sur lesquels on fait des recherches, et après on développe l'atelier à partir de ça, pour parler aux jeunes, que ça soit quand même accessible, et puis toujours dans ce qu'on disait, de faire en sorte de créer la discussion autour du sujet, de parler de leurs expériences, et donc c'est comme ça que l'atelier sur l'intelligence artificielle est né, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait fait cette discussion il y a 2 ans, on s'aurait dit, bon, l'intelligence artificielle et le cinéma, il y a encore un monde dans lequel on n'y est pas encore. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait son propre cinéma. Ouais. Ça veut dire que demain, je peux demander à l'intelligence artificielle de me représenter dans une scène d'Avengers et je vais avoir une réalisation qui est crédible, pour le coup. Ce qu'il y a 2 ans, on voyait Will Smith qui mangeait des pâtes par ses cheveux, on comprenait rien. Alors que maintenant, tout est extrêmement réaliste. Donc c'est vrai qu'on, pour vous, ça doit être un matériel qui permet de encore plus sensibiliser, sachant qu'il commence à toucher vraiment votre corps de métier, pour le coup.
Ouais, complètement. Et bah, nous, vu qu'on est dans la diffusion, on est pour le moment un peu moins touché. Il faut toujours des projectionnistes pour amener le projecteur. L'intelligence artificielle ne peut pas le faire à leur place. Mais par contre, ouais, dans le monde du cinéma, et de toute façon, tous nos ateliers, on essaye de se raccrocher au cinéma à un moment ou à un autre. Et là, c'est un des sujets qu'on aborde dans les ateliers, c'est l'influence que ça peut avoir sur le cinéma, dans tout le processus créatif, de l'écriture de scénario jusqu'à la post-production, le doublage. Il y a quand même plein de corps de métier et de pratiques qui sont impactées par l'intelligence artificielle qui est de plus en plus puissante, quoi.
Alors, pour le doublage, c'est vrai, puisqu'il y a de nombreux utilisateurs maintenant qui se plaignent sur des grandes plateformes d'avoir un doublage qui est réalisé directement par l'IA.
Ouais. Ça se reconnaît de toute façon. Enfin, faut avoir l'oreille un peu aguerrie, mais on voit quand même la différence entre quelqu'un qui parle vraiment et une IA. C'est encore un peu robotisé. C'est de plus en plus masse, mais je pense que ça se détecte encore assez facilement.
Alors, du coup, pour sensibiliser à l'IA ici, vous avez choisi de prendre un support en jeu de société.
Ouais.
Alors, pourquoi ce choix à la base ?
Bah, alors déjà, comme je disais tout à l'heure, on essaie toujours d'apporter un côté un peu ludique. Et l'idée du jeu de société, c'était aussi de prendre le contre-pied, de pas faire un truc numérique sur l'intelligence artificielle, mais d'avoir un vrai support physique qu'on peut manipuler et avec des cartes qu'on peut jouer et tout ça. Et du coup, c'était l'idée de réancrer l'intelligence artificielle dans le réel. Mais c'est aussi ce qu'on essaie d'apporter, parce que ça, c'est un constat qu'on a fait pas mal en discutant avec les jeunes, mais même avec les adultes, c'est que le monde du numérique, on a souvent l'impression que, vu qu'on y accède par une application, c'est juste virtuel et qu'il n'y a pas forcément d'impact, alors qu'il y a quand même des infrastructures, il y a quand même des impacts sociaux, économiques, politiques. Et du coup, on essaie de, à travers... Enfin, de ramener le côté physique et de leur faire comprendre qu'il y a des choses derrière, il y a des infrastructures, de la même manière que quand on va prendre le train, il y a une gare, il y a des rails, ben, quand on utilise Internet, il y a des câbles qui passent sous la mer pour nous amener les images qu'on voit, quoi.
Alors, si vous êtes curieux, vous pouvez déjà aller voir à quoi ressemble le jeu de société, puisque le jeu s'appelle Artifice. Il a déjà donc été créé, développé et produit. Il est disponible donc sur le site arci-hdf.org. Voilà, je ne me trompe pas. Et donc vous avez déjà les images et la boîte du jeu également qui est disponible. On peut l'acheter, c'est ça ?
Ouais, bien sûr, ouais.
Elle est disponible à l'achat. Est-ce que tu peux nous parler un peu du système de jeu et en quoi il sensibilise ? Également. Alors je dis sensibilise, c'est le bon terme ou en...
Bien sûr.
Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Le but c'est pas de dire c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut, c'est tel avis qu'il faut avoir sur l'IA. Le but c'est de donner des informations. Alors après nous on a nos propres avis qui transparaissent forcément. On n'est pas complètement objectif, mais du coup le système de jeu c'est un système de deck building assez simplifié. Où le but, c'est de créer une intelligence artificielle, de créer un modèle d'intelligence artificielle. Donc, on joue comme une entreprise qui créerait son modèle d'intelligence artificielle. Et on va piocher 2 cartes à chaque fois. Et on va devoir choisir quelle carte on joue. Et après, il y a un système de points de puissance. Donc, il faut rendre notre modèle le plus puissant possible. Mais il y a aussi un système de points d'éthique. Et il faut éviter de perdre des points d'éthique. C'est plus dur d'en gagner que d'en perdre. Et
donc c'est là qu'il y a votre avis presque. C'est vous qui définissez un peu l'éthique.
Ce qui est éthique ou pas dans les choix qui sont présents sur les cartes, quoi.
Est-ce que tu as un exemple de ce qui peut être éthique ou ce qui ne l'est pas ?
Eh ben, on a du coup il y a un système de cartes recherche et développement qui sont plus les stratégies de l'entreprise, ce qu'elle va faire, et un système de cartes données. où c'est comment on va récolter des données pour entraîner notre modèle d'intelligence artificielle. Et par exemple, dans ces cartes-là, il y en a une, c'est voler le travail de petits artistes sur Internet.
Donc ça, éthique.
Ouais, c'est pas très éthique. Éthique. Oui. Donc ça fait gagner des points de puissance. On n'a pas besoin de payer la carte, elle est gratuite. Mais par contre, ça fait perdre des points d'éthique. Donc c'est des choix qu'il faut faire.
Et évidemment, ce n'est pas à faire, voler les données des autres.
Oui, oui, c'est ce que font déjà les grandes
boîtes d'édition de jeux vidéo. Mais ouais. C'est à ne pas faire. C'est pas c'est pour autant que les grands le font qu'il faut
c'est,
le faire.
C'est trop tard.
Je sais. Oui.
Il y a aussi une carte embaucher des artistes pour que ça soit sur leur travail que le modèle s'entraîne. Et là, ça fait gagner de la puissance et ça fait gagner de l'éthique. Mais par contre, ça coûte cher. Donc c'est des choix économiques qu'il va falloir faire, que les joueurs sont invités à faire.
Je rappelle, hein, puisque tu as sorti le terme deck building, pour nous c'est oui. commun, mais le deck building, en fait, vous allez récupérer des cartes que vous allez garder dans votre jeu, que vous allez pouvoir réutiliser, c'est un peu ça le principe.
C'est ça, en fait, c'est créer son propre paquet de cartes avec ses choix de volonté de créer une stratégie ou une tactique en fonction de la durée du jeu, et avec une possibilité d'épurer son deck, je ne sais pas si là vous l'avez prévu ou pas, pour justement améliorer le rendement de son jeu.
Ouais, alors c'est vraiment c'est inspiré des systèmes de deck building, mais c'est vraiment très simplifié aussi pour que. Enfin, l'idée c'est que le jeu il soit accessible et qu'on puisse prendre du plaisir dès la première partie, vu que souvent les jeunes on va les voir qu'une fois, donc on a fait au plus simple pour que les règles soient faciles à expliquer, faciles à comprendre, faciles à prendre en main. Et après, si on veut, on peut mettre en place plus de stratégies dans des parties suivantes, mais c'est très simple.
On parle des jeunes, c'est à partir de 12 ans ?
Ouais, c'est ça. Bah, ouais.
Ça peut jouer un peu avant ou...
Oui, en soi, ça, c'est possible un peu avant. Mais nous, c'est un peu ce qu'on préconise aussi dans le cadre de nos ateliers pour en se laissant une marge de négociation avec les partenaires en fonction de leur public. Mais, voilà.
T'as la lecture sur les cartes, c'est ça ?
Ouais, il y a la lecture sur les cartes, ouais. Et puis...
Tu pourras pas jouer.
Non, moi non. Je suis tellement habitué aux iconos maintenant des cartes que les mots, je ne sais plus ce que c'est.
Alors, si jamais ça vous intéresse et que vous dites « Ah, j'aimerais le tester avant d'acheter la boîte du jeu », c'est possible, puisque sur le site, vous avez une version print and play gratuite.
Ouais.
Donc, print and play, vous téléchargez, vous pouvez imprimer le jeu vous-même, découper vous-même vos cartes. Il y a un petit côté créatif également. Et par la suite, ben, vous faire plaisir avec l'édition complète. C'est à 30 euros plus les frais de port.
C'est ça. Et l'édition numérique, elle est prix libre plus que gratuite. C'est possible de la payer.
Pardon.
C'est possible de l'avoir gratuite, mais c'est possible de la payer aussi.
Pour nous soutenir un peu dans ce contexte politique, culturel voilà. Compliqué.
J'ai dérapé. Est-ce que tu avais une autre question, peut-être, Rénal, sur le jeu, vu que...
Mais moi, j'avais une question par rapport au jeu et aux ateliers, parce que du coup, le jeu, vous le proposez dans le cadre de l'ARCI, dans vos ateliers à vous. Il est vendu également sur votre site. Est-ce que vous, pour les personnes, comme les structures, éventuellement des associations, des centres sociaux qui voudraient acheter le jeu, est-ce que vous avez une formule aussi d'accompagnement pour eux, pour qu'ils puissent découvrir le jeu ?
Oui, alors c'est possible d'acheter le jeu seul. Donc pour les structures, on a fait un prix un peu plus élevé à 50 euros pour qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre d'ateliers qu'ils montraient eux-mêmes. Et on a aussi en bonus une présentation qui va un peu plus loin sur la théorie de l'intelligence artificielle, qui est à 25 euros supplémentaires, avec une vidéo explicative des règles qui va un peu plus loin pour que toutes les structures puissent l'avoir et être autonome dans l'animation d'ateliers qui serait construit par elle.
Mais vous ne faites pas de première, enfin d'initiation pour éventuellement les membres de la structure et après vous les laissez dérouler
on a aussi une formule comme ça, on a une formule à 400 euros où nous on vient 2 heures animer un atelier autour de l'intelligence artificielle avec une structure et on leur laisse le jeu à la fin.
Ok.
Ça t'intéresse ?
Bah, disons que j'ai découvert le même mode de fonctionnement avec d'autres thématiques, comme par exemple la gestion financière, qui est aussi utilisée, et cette fois-ci c'est la Banque de France directement qui a sorti le jeu, donc c'est quand même assez solide. Mais c'est le même principe, c'est de sensibiliser à des sujets de société par le biais du jeu, et de pouvoir en effet vendre ce jeu à des structures et qu'après elles le déploient. Et je trouve ça vraiment bien, et la gamification de cette manière-là, je trouve que c'est... comme tu disais tout à l'heure, beaucoup plus facile de faire passer les messages au jeune public, entre autres.
Il y avait déjà pas mal de formations, enfin déjà pas mal d'années. presque 30-40 ans qui utilisaient le jeu de plateau. Mmh. T'avais des personnes dans les hautes sphères qui utilisaient par exemple l'âge de pierre pour faire passer des messages de team building. Je disais, mais c'est un jeu de société. Mais non, ça fonctionne très bien, justement. Mmh. Et, mais là, maintenant, c'est justement l'inverse. C'est les structures qui créent leur propre jeu pour faire passer des messages en interne.
Une petite pensée à ceux qu'on a déjà reçus sur la ludopédagogie. Mmh. Ça rentre de plus en plus dans les entreprises et pas uniquement dans les écoles. Mmh.
Vu que l'intelligence artificielle, chaque jour, nous donne de nouvelles actualités, est-ce que tu as déjà dans, ta, dans le creux de ta tête un petit add-on ou
Non, pas encore. Après, il y a toujours, vu que c'est surtout moi qui a planché sur le jeu, une fois qu'il est sorti, une fois qu'il est fini, et on se dit toujours, ah, ça j'aurais pu le faire différemment, cette mécanique-là, cette carte-là, elle est quand même un peu moins forte que les autres, et personne ne l'a choisi jamais. On se rend compte de choses un peu trop tard, donc il y aurait peut-être des mises à jour à faire, qui seraient bien, mais après, les retours qu'on a, ils sont quand même positifs. Et peut-être un add-on un jour, oui, c'est vrai, pour s'adapter aux changements de l'intelligence artificielle, ça pourrait être intéressant.
On lui demandera à l'intelligence artificielle si elle a...
Si elle a des idées.
Non, pas éthique.
Pas éthique du tout, non.
Après, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres thématiques que l'IA que vous aimeriez aborder par le biais de ce système de jeu, puisque vous parliez de faire des diffusions de films avec des thématiques sur des sujets d'actualité. Est-ce qu'on pourrait parler de l'environnement, de la gestion des déchets, de plein d'autres choses?
On pourrait parler de plein de choses. En fait, à la création de l'ARCI, le but, c'était, comme le disait Alex tout à l'heure, de monter des ateliers indépendants de séances de cinéma, donc vraiment de venir en complément de ce que fait, de ce que font déjà les cinémas itinérants, et de toucher les publics qui ne sont pas forcément sensibilisés aux actions des cinémas itinérants. Les cinémas itinérants, effectivement, ont un public plutôt âgé ou jeune public et très jeune public. Et donc, nous, notre but, c'était d'aller vers les ados sur ce qu'on appelait à la base les nouvelles images, et donc d'aller un petit peu plus loin que le cinéma, mais toujours en lien avec l'image. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé on a commencé avec un atelier autour des séries contre les discriminations, ensuite, on s'est lancé dans le jeu vidéo, et c'est aussi comme ça qu'on a construit nos ateliers. Mais parler de sujets d'actualité au travers du jeu de société, oui, moi, j'adorerais qu'on monte un jeu de société autour du cinéma ou fabrication d'un film ou quoi, ce serait
génial. Il y a Cinelic qui ont développé alors c'est une forme de carte, donc ça se rapproche du jeu de société, mais c'est on tire des contraintes pour réaliser comme un mini court-métrage. Donc ça commence par une photo, et puis après on va avoir un cadre différent, un mouvement de caméra, puis après il y a un montage avec un champ contre champ par exemple, et à chaque fois on a des contraintes qui se rajoutent comme ça, et finalement on réalise un court-métrage presque sans s'en rendre compte, et c'est un système de cartes qu'on pioche pour récupérer des contraintes. Donc
ça, tu vois, par exemple sur le cinéma, on entend souvent beaucoup de tel film a coûté X millions de dollars à produire. Rentabiliser autant. Bon, soit, mais pourquoi ce coût phénoménal? Il y a quoi comme qui coûte autant? Il y a quoi? Tu vois, un petit jeu qui nous dit, voilà, t'as une somme d'argent, démerde-toi, fais un très bon film avec toutes les contraintes possibles et imaginables, et pour que tu réalises que c'est un film qui a coûté que 30 000 dollars et qui fait un carton au cinéma, alors qu'il y en a un autre qui coûte 400 millions de dollars et que c'est une vraie bouse parce qu'ils ont mis tout sur les effets spéciaux en post-prod, tu vois. Mmh. Voilà. Ça, par contre, c'est peut-être plus imaginable, peut-être, de mettre les process en place.
Non, c'est vrai que ça peut être
complètement
intéressant.
Ça peut être
mais
intéressant.
Comment tu vas le vulgariser, par contre?
Si tu cherches des idées, tu peux l'appeler.
Ouais. Si tu veux des protos.
Oui, c'est un sujet qui est assez complexe. On reste dans une société capitaliste, et donc il y a quand même des énormes enjeux financiers sur la production des films. Et effectivement, quand on voit que le film qui a coûté le plus cher au monde aujourd'hui, en tout cas, c'est Avatar. Par qui est-ce que ça a été produit? Disney. Donc forcément, il y a des enjeux qui nous dépassent complètement. Et je pense que ça pourrait être intéressant de travailler sur, effectivement, comment est-ce qu'on fait un film, quelles sont toutes les démarches aussi qui financières et administratives, comment est-ce qu'on trouve des producteurs, comment est-ce qu'on fait un casting, comment est-ce qu'on écrit un scénario, comment ça, on le fait un petit peu quand même, mais non pas au travers du jeu, mais au travers d'ateliers de réalisation. Et parfois, dans nos ateliers de réalisation, on essaye d'aller un petit peu plus loin en disant, bon bah voilà, maintenant votre film est fini, est-ce que vous savez comment ça se passe après, est-ce que vous savez, enfin déjà, avant, on n'a pas fait ça, mais il faudrait des producteurs pour trouver l'argent. Il faut aussi ensuite trouver un distributeur pour que le film puisse être distribué en France, peut-être des distributeurs internationaux aussi, on ne sait pas, parce qu'il y a des distributeurs qui sont français et des distributeurs qui sont internationaux comme Disney, Warner et Universal, qui sont les trois premiers gros distributeurs, mais qui sont aussi producteurs. Et donc il y a aussi toute cette distinction de distributeur-producteur, sachant que parfois ils font les deux. Enfin, il y aurait plein de choses à développer, je pense, là-dessus. Ouais.
C'est vrai que, petite parenthèse sur Cérémania qui avait lieu il y a quelques semaines, on parle série mais cinéma, ça se rejoint. J'avais eu l'opportunité d'aller au forum de Cérémania avec mes étudiants, puisque je suis formatrice, et c'est vrai qu'ils avaient un peu blêmi en voyant la quantité de sociétés de production et que ça parlait anglais, et voilà, il y avait de l'international, il n'y avait pas que du local et du français, et c'était assez impressionnant. Mais c'était à l'île Grand Palais, c'était quand même... Enfin, même pour moi, c'était...
C'est énorme.
La cour des grands, quoi.
Ouais, on n'imagine pas, en fait. C'est immense, ce milieu.
Petite pause musicale avec Rare Monk. Ici, c'est un collectif qui vient de Portland, aux États-Unis. Et je vous laisse deviner le titre.
Artifice.
Ici, avec la chanson Artifice. On remercie Alex et Simon de nous avoir rejoints pour cette émission. Vous faites partie de l'ARCI HDF, l'association régionale
des cinémas itinérants des Hauts-de-France.
Wow. On peut citer également la Ciné League, la Ciné Pop et Ciné Rural 60, ouais. Qui vous coordinez un peu les événements avec eux.
Tout à fait.
Est-ce qu'on, puisqu'on va commencer à arriver à la fin de l'émission, et fin de l'émission veut dire les événements à venir, est-ce que vous avez déjà des choses prévues prochainement, cette année ou au long terme ?
On est en train de développer un festival qui aura une toute petite première édition cette année, du 4 au 6 juin, qui s'appelle En Ruralité, avec l'objectif de mettre en avant une programmation qui parle justement de la ruralité et qui met en avant toutes les productions locales, entreprises locales, initiatives locales à la suite des projections. Et la première édition est du 4 au 6 juin. Et le but, c'est d'avoir un maximum de séances sur ces 3 jours, en salle et en plein air, sur les 5 départements.
Quand on parle de production...
De films régionaux, de films et de programmes régionaux. Qui parle de la ruralité, vraiment, des dynamiques rurales.
Il y en a beaucoup de ce type de production.
Là récemment, il est déjà en 5e semaine. Il y a eu la guerre des prix qui est quand même assez intéressant justement sur ce que coûte la production de. Là, c'était vraiment assez centré sur le lait et les yaourts, mais c'est un film qui parle du coût de production du lait et comment c'est redistribué et quels sont les impacts sur les producteurs locaux. C'est un film qui va clairement faire partie de la programmation. On a aussi un documentaire qui vient de sortir là.
Oui, je vois duquel tu
la
parles.
La rurale, point d'exclamation, ouais, je crois que ça s'appelle comme
rural,
ça.
Mais il y en a un deuxième.
Il y en a un deuxième
qui a été tourné dans la Vénois. Mais son nom, il m'échappe là.
Ouais, tout à fait. Et il y a aussi le documentaire Pédale Rurale qu'on va essayer de mettre en avant. Et donc, pour le coup, sur ce festival, on va avoir des séances en salle, des séances à destination des établissements scolaires et des séances en plein air. Donc, on a vraiment 3 programmations différentes. Et on espère que ce sera une belle édition pour en faire une plus grande les années suivantes. C'est ce qu'on espère en tout cas.
C'est à noter, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on les relaiera sur les ondes, sur notre page, heureusement, en France. Est-ce qu'il y a d'autres petits événements ? On va se tourner vers Virginie, Ladybug Reporter, si vous voulez suivre sur la chaîne Facebook, oui. Pour dès le vendredi soir ou le samedi matin.
Au plus tard, avoir...
Tu sais que le vendredi soir, des fois, je pèse, je sais qu'est-ce que je vais faire ce week-end. Pour avoir...
Bah, un petit message, je vais me mettre un petit coup de pied aux fesses pour que je publie plus vite.
Tous les actualités et les événements de la région, pour le
Donc,
coup.
Je fais quoi demain matin, Virginie ?
Non, ça marche que le vendredi.
C'est que le vendredi, il ne faut pas le faire avant, c'est pas la peine. La semaine prochaine, il y a plein de nouveaux événements là cette année, en particulier autour du mois d'avril. Il y a un événement à Beuvry qui s'appelle La Contrée Fantastique, festival fantastique, médiéval fantastique dans toute sa splendeur, avec une entrée gratuite, je tiens à le préciser. Donc c'est samedi et dimanche. Et il va y avoir le Orna Geek Festival pour la 3e édition la semaine prochaine. Là, par contre, c'est 3€ l'entrée dans la salle des sports. Et c'est organisé par Orchi Retro Gaming. Et puis, la semaine d'après, on va très vite arriver sur d'autres événements. Il y en a un qui va te plaire, puisque c'est Carvin Japan Event. Et je crois que c'est une première édition.
Ah, j'ai cru que tu allais me parler de Flipper.
Non.
Je crois qu'il y a un
goût pour le manga.
Est-ce qu'il n'y a pas un événement au Tréport de Flipper ? Je lance. Attends, mais j'ai un assistant, mais il n'est pas artificiel.
Il n'est pas intelligent non plus, vu qu'il accepte.
Il va y avoir également le Florijeu, cette fois-ci, qui est à Longness. Et on va rapidement retrouver les camarades de l'enjeu à Quesnoy-sur-Deule, Paris, les 25 et 26. Donc les prochains week-ends vont être chargés en événements geek, manga, de manière générale.
Voilà, ça y est, la saison est lancée.
Elle est déjà lancée depuis un mois, à peu près.
Les brocantes reviennent, j'ai vu les sites de brocantes commencer à afficher.
À pulluler un petit peu, ouais.
Alors, le Tréport, Flipper au Tréport.
Je n'ai pas vu l'affiche, moi, par
contre. Non, parce que là, je suis sur la page du...
de la ville, mais tu n'as pas.
De la ville, mais il n'y a pas. Le 24 avril, il y a une pièce de théâtre à 15h qui s'appelle Cornebidouille. C'est peut-être ça que tu as vu. Sinon, le 5 mai, et il y a 20h, le Hold Up et Bras Cassés, qui est aussi une pièce de théâtre.
T'embête pas, je vais le faire moi-même. C'est le 18 avril, c'est le Flip Expo avec Ouais, mais voilà, moi ça me passionne, donc c'est normal. La 18e édition avec énormément de flippers en accès gratuit, et ça c'est assez incroyable. Vous pouvez jouer autant que vous voulez, jusqu'à en avoir mal au dos ou aux mains.
Voilà. Tu vois, je fais exprès de rater mes recherches, mais ils continuent à me les donner quand même.
Et après, il y avait un message derrière.
Un petit peu, ouais.
Et après, dans le dernier petit point event, le Louvre Lance qui a lancé une nouvelle expo, je ne sais pas si Dom en avait parlé, Par au-delà les mille et une nuits, histoire des orientalismes au Louvre Lance. Ça a démarré le 25 mars et ça se termine le 20 juillet prochain. Et ça a l'air plutôt pas mal.
Parfait. Alex, Simon, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Merci beaucoup à vous de nous avoir
reçu. Merci pour l'invitation.
On le rappelle, donc l'ARCI HDF avec notamment le jeu Artifice que vous pouvez imprimer vous-même en allant tout simplement sur le site avec une participation de votre choix. Et pour le tester, et pourquoi pas, si vous les rencontrez lors d'un festival, puisqu'on peut de temps en temps vous voir pour tester le jeu, vous étiez notamment à Ludinor, ou prendre tout simplement une édition physique sur le site. Et on le rappelle, si vous avez une entreprise ou autre et que vous souhaitez sensibiliser les gens à l'intelligence artificielle ou d'autres sujets, on peut faire appel à vous. Et il y a une offre notamment pour avoir une formation plus le jeu Artifice pour votre entreprise ou autre. Voilà. On va terminer cette émission en musique avec Ternion Sound. Ici, c'est une composition originale de l'espace. Et le titre, voilà, c'est Artifice. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Heureusement en France. Et d'ici, apportez-vous bien. Ciao.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Au revoir.